Bienvenue tout le monde sur les ondes de Boulevard 102.1. L'émission On en jase, il est précisément midi, 1 minute, 2-0 Canada sur la Tchéquie. Un but de Mark Stone marqué en début de deuxième période sur une superbe passe de Mitch Marner soulevée du revers. Le Canada qui mène 2-0, mais les Tchèques dominent dans les tirs au but. 21-19, excellente performance jusqu'à présent de Jordan Bennington. Évidemment, on va vous tenir au courant du pointage tout au cours de l'émission. Et on va parler avec Alex Laramose à l'entour de 13h20, 13h25 pour faire notre chronique Jeux olympiques. Match du Canada masculin, match du Canada féminin également. 5-0, la victoire sur la Finlande. Et deux médailles d'argent pour Michael Kingsbury en ski acrobatique et Elliot Grondin en snowboard. Donc, c'est une belle journée présentement pour le Canada aux Jeux olympiques. Également, plus tard dans l'émission, aux alentours de 12h45, on va avoir Stéphane Turcot avec nous pour parler de ce rêve olympique à Québec que Bruno Marchand a ramené sur la carte pour 2042 ou 2046. Moi, je me suis positionné ce matin, je continue à me positionner. Je suis pour. On a maintenant plein d'infrastructures qu'on n'avait pas dans les années 90. Amenez-moi les Jeux à Québec. Faites vibrer notre belle ville et toutes les retombées économiques qui vont venir avec. Antonine Iacarini, t'es-tu dans mon équipe de Jeux olympiques?
Je sais pas si ça vaut vraiment la peine et tous les coups, mais en tout cas, on a de la neige.
Exactement.
On est accueillant. Puis moi, je me rappelle du jingle, de la chanson des Jeux de 2002.
Moi, je m'en rappelle pas. Vas-y, dis-moi ça.
J'étais genre en quatrième, cinquième année, quand il y a eu cette folie là, qu'on voulait avoir les Jeux olympiques. Puis là, les gens changeaient pas de poste, mais c'était les Jeux de 2002, les Jeux... Moi, je les veux. Puis là, on avait tous nos T-shirts, toute la gang. Tout le monde avait Québec 2002 avec les anneaux olympiques. C'était malade. Puis après ça, on les a pas eus. C'était à la Salt Lake City.
Extraordinaire. Dave qui nous écrit justement le jingle et qui nous dit « Est-ce que la montagne a grandi? » Non, notre montagne n'a pas grandi, mais maintenant, on est capable de faire des Jeux olympiques en partenariat. Je vous explique tout ça avec Stéphane Turcot de mon idée. Hey, là, on a des infrastructures à cette heure à Trois-Rivières. Lévis va avoir son nouvel amphithéâtre rendu là en 2042. On va avoir un troisième lien pour faciliter justement
un tramway.
Déplacement des gens en tramway dans la ville. Non, faut rêver, les amis. Faut rêver. On rêve plus. Ouais, non, nos petites affaires de ouais, non, on n'est pas assez gros pour ça. Ouais, ça va coûter trop cher. Ouais. Non! Rêvons.
Think big.
Oui, puis après ça, on sera en faillite.
C'est ça.
Mais on aura rêvé.
Hey, Montréal a rêvé. Montréal a eu les Jeux olympiques. Puis... Bon, vous allez me dire que Montréal est prêt que le stade olympique. Oubliez ça. C'était un investissement.
C'est terrible, le stade olympique. Sérieusement, ça donne pas...
Comprenez mon sarcasme,
oui, oui, on a compris.
Pour les auditeurs qui n'ont pas compris.
On a compris, mais mettons, sans sarcasme aucun, le stade olympique, sérieusement, là, ça donne pas le goût.
Okay. Non.
S'il faut faire des infrastructures pour les Jeux olympiques, est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, de ne pas être trop original, de faire une infrastructure?
Oui, oui. Ça n'avait pas l'air d'une navette spatiale. Là.
Ah, mais moi, ce n'est pas le look.
Quelle verrue
urbaine. Pas gérable. Ce n'était pas gérable. Ce n'était pas une bonne infrastructure pour la suite des choses. En tout cas, bref, c'est tout un autre dossier.
En tout cas, bref,
mais...
on a plein de choses.
On va
en parler avec Stéphane Turcot. On va rêver tout à l'heure. Mais en attendant, je prends une présence, guys. 418-971-1021. Puis écrivez-moi oui ou non. Êtes-vous pour les Jeux olympiques à Québec? Écrivez-moi ça. Puis ceux qui vont avoir dit non, on vous convainc à 12h45. Vous embarquez dans la secte des Jeux olympiques.
Je vais être à convaincre, Jeff. J'ai pas le choix.
Ah ouais? Dire,
mais ben c'est ça, mais c'est correct. Fait que là,
22
Jeff,
ans, puis il rêve.
Jeff va être du côté du rêve. Mathias, 22 ans, va être du côté de la responsabilité financière.
La raison.
De la raison. Donc, les gens vont se sentir représentés, mais à la fin là, du débat, on va voir là, est-ce que les gens ont changé d'idée ou pas.
22 ans, puis ils rêvent plus. 418-971-101. Rêvez-vous aux Jeux olympiques. Donnez-moi de l'amour, s'il vous plaît. Répondez oui.
Regarde, David commence déjà. Là, Jeff, ils veulent fermer des patinoires à 30 000 $. Les Olympiques, c'est peut-être un peu gros.
Carl rêve au moins avec moi. J'aime ça. Continuez à écrire au 418-971-102-1. Évidemment, pour nous suivre également, vous pouvez nous suivre via le blvd.fm. C'est la web radio. Les meilleurs moments de l'émission vont se retrouver également là. Abonnez-vous à notre page YouTube, les caucus avec Antonine Iacarini, s'y retrouve à chaque jour. twitch.tv/blvd/fm. Vous pouvez commenter aussi concernant les Jeux olympiques. Ah, Sylvie qui scrappe mon rêve en disant que nos infrastructures sont trop scrappées. Ben là, au centre Vidéotron vient d'être construit, vous le disant. On est prêt.
on est prêt pour les Olympiques.
C'est vrai, il y a déjà celle-là. C'est...
Ah, oui. On a une infrastructure. Oui. Hein? Oui. Il en manque juste une bonne dizaine.
Ben, on a l'anneau de glace. On a le pavillon Guy Lafleur qui peut accueillir le courte-piste. On va envoyer le patinage artistique au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières ou au nouvel amphithéâtre qu'il y aura à Lévis.
T'as déjà tout ton plan de
j'ai
match
mon
de fête.
Je pense que tu vas être DG des Olympiques.
Ouais, c'est ça.
Je l'ai dit, j'ai dit au maire Marchand aujourd'hui en onde, nommez-moi président du comité olympique puis je vous ramène ça.
OK.
Je voulais avoir craqué. Des arguments. Ah, moi, j'en rêve aux Olympiques. J'ai tellement le cœur brisé quand ça a fait Salt Lake City.
Ah, moi aussi, vraiment.
Puis j'étais au carré d'Youville. J'ai dit non, ça peut pas m'arriver à nouveau. Hey, c'est parce que dans l'espace de quoi? 2 ans, on a perdu les Nordiques et on n'a pas eu les Jeux olympiques.
Mais c'était pas la même année, même.
Mais je pense que c'est la même année. Comme dirait... je vais aller revoir, voir.
Écoute, c'était pas une belle année. Comme dirait c'est la ça. Reine d'Angleterre il y a quelques années. Exact. Anus horribilis.
Exactement. On a une auditeur, une auditrice qui nous écrit si ça n'implique pas de construire des édifices supplémentaires, oui, pour les Jeux olympiques.
C'est sûr qu'il va falloir construire.
Restez à l'écoute à 12h45, je vous explique mon plan. Ah, il y a une pièce de bobsleigh et de luge là, qu'il va falloir construire, mais maintenant, ça se construit de façon temporaire, comme on l'a fait pour le Red Bull Crashed Ice. On enlève ça après, ça va avoir coûté des peanuts pour les retombées économiques qu'on va avoir.
OK. Écoute, on attend ton cadre financier, mais je voudrais rappeler que 60% des infrastructures municipales sont en perdition présentement. Mais on attend ton cadre financier.
Justement, on va profiter des subventions des Olympiques pour rénover nos infrastructures.
Fait qu'on va mettre la province en faillite.
Oui, exact. Tu sais, c'est le même payeur de taxes à la fin de la journée.
Comme on fait avec le tramway.
OK. Regarde. À suivre.
C'est l'enfer comment j'ai un plan détaillé, établi. Ah non, je suis en train d'en convaincre. Je suis convaincu que je suis en train d'en convaincre. Bon, même si on veut fermer des patinoires à 20 000, on va avoir les Olympiques. App Store, Google Play Store, c'est l'application Boulevard 101 pour nous écouter aussi dans nos folies de Jeux olympiques ou autres sujets plus sérieux d'actualité. Parlant de ça, Mathias, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité à l'heure actuelle?
Je commence avec une histoire qui est sortie dans Le Soleil il y a de cela quelques dizaines de minutes. C'est Régent Bacon qui est connu surtout à Québec pour avoir personnifié le Père Noël pendant plus de 40 ans. Il était le Père Noël du quartier Petit-Champlain pour l'hiver. Donc, probablement, certains de nos auditeurs présentement ont des photos de leur enfant assis sur les genoux de ce monsieur-là. Ouf, eh bien, il y a
peut-être... Denis Gravel en a une.
Oui, je sais. Véro m'en parlait tout à l'heure. Ben, bien, cet homme-là, Régent Bacon, a admis aujourd'hui avoir violé au moins 6 femmes alors qu'elles étaient inconscientes ou encore inerte. En gros, c'est un changement de situation parce que son procès s'en allait débuter pour une durée de 6 semaines, puis finalement, il a plaidé coupable à différents chefs d'accusation pour l'homme de 75 ans. On parle d'infraction, d'agression sexuelle, de proxénétisme, de possession de stupéfiants et de voyeurisme parce que durant ces nombreuses agressions, eh bien, l'homme y enregistrait le tout pour par la suite le réécouter. Oui, bon, c'est ça, c'est dégueulasse, ça, on va se le dire. Là. C'est des faits reprochés entre 2015 et 2021. La stratégie qui était utilisée, c'est qu'il y avait un appartement dans le secteur de Sainte-Foy qu'il appelait la commune, puis il y hébergeait des femmes et des hommes avec des problèmes de consommation ou encore coincés dans le domaine de la prostitution.
Pis, une grande arme, finalement.
Une grande arme. Ben, lui, il disait qu'il faisait ça pour les aider. Il faisait signer des contrats en échange d'hébergement. Il y avait des services sexuels ou encore d'autres services qui étaient offerts. Donc, Régent Bacon, on va suivre ça de près pour savoir quelle sera sa sentence au cours des prochaines semaines.
Pour vous donner une idée du personnage, il s'est présenté en cours habillé encore une fois en Père Noël. Un genre de Père Noël en vacances avec un chandail, un tricot rouge et des pantalons rouges. Quel drôle de personnage.
On a eu un peu plus de détails sur la fusillade de Thunder Ridge. Je vous le rappelle, la fusillade dans l'école secondaire où 8 personnes ont été abattues hier, ben mardi en fait. C'est hier soir qu'on a connu l'identité de la personne qui a tiré dans l'école secondaire. C'est une femme trans de 18 ans, J.C. Van Rotseller. En gros, là, pour vous résumer les faits, avant la fusillade, il y a également dans sa résidence le corps de sa mère et de son demi-frère qui ont également été retrouvés. On dit qu'il y a eu plusieurs interventions au domicile de la jeune femme par rapport à des problèmes liés à des santé mentale puis en lien avec des armes à feu au cours des deux dernières années. Une chose est sûre, c'est un drame qui touche encore tout le pays et Mark Carney a annoncé qu'il va se rendre dans la municipalité au cours des prochains jours. Je termine avec l'intervention de ICE à Minneapolis qui va prendre fin. Ça avait tellement fait du bruit au cours des dernières semaines, notamment en raison du décès malheureux de René Good et Alex Pretty, tous deux âgés de 37 ans, le 7 et le 24 janvier dernier. Plusieurs manifestations avaient lieu justement à Minneapolis pour dénoncer la présence du ICE. C'est Tom Homan, l'émissaire de Donald Trump à Minneapolis, qui l'a annoncé aujourd'hui. Il a précisé toutefois que les agents du ICE vont rester un peu plus longtemps pour superviser la fin d'opération, mais au cours des prochaines semaines, normalement, ça devrait être terminé.
Excellente nouvelle pour les résidents de Minneapolis. Enfin, ces policiers voyous ne seront plus là.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Antonin Iaccarini du lundi au jeudi à compter de midi avec la petite introduction, les manchettes et ça jusque vers 12h30. Vous mentionnez que Bo Horvat vient de marquer pour le Canada. C'est 3-0.
Yes.
Canada contre la Tchéquie au hockey masculin. La deuxième période vient de prendre fin. Anto, j'ai absolument besoin de toi.
Je t'écoute.
Parce que là, je comprends plus rien. Moi, hier, moi, d'un, je dois te le dire, je file vraiment good vibe only. Là. Je pense que tu l'as senti. Là.
Oui.
Je suis pro-olympique.
Oui.
Je vois déjà du studio les compétitions olympiques. J'ai 62 ans. Je vais être bénévole pour les Jeux olympiques. Écoute, il n'y a rien que je ferai pas pour qu'on les aille. D'accord?
Okay.
Fait que quand t'es comme ça, c'est que t'es vraiment good vibe, t'es vraiment très positif
oui.
dans la vie parce que t'es pas comme Mathias ou Jean-Pierre par texto qui dit oh, les infrastructures, les coûts. Non, non, non. Tu rêves. Tu think big. Comme Elvis Graton. OK?
Mm-hmm.
Bon, cela dit, hier, on avait Alex Boissonneau en entrevue
oui.
Du côté du PQ. Puis là, moi, j'étais prêt. Hein? Là, j'étais prêt à être de mauvaise humeur avec Alex Boissonneau.
Ouais. Okay.
Ah ouais, là, j'étais prêt à le traiter de maudit séparatiste
ouais.
qui veut pas accueillir d'immigrants.
Exact.
Parce qu'on le sait, Jacques Parizeau nous l'a dit, c'est l'argent puis les votes immigrants qui nous ont empêchés de gagner le référendum de 95. Fait que là, j'étais prêt à dire à Alex Boissonneau, hey, mon Boissonneau, pourquoi tu veux pas garder le monde qui sont ici depuis 2 ans, qui travaillent puis qui parlent français? Il m'a complètement décontenancé. Il m'a répondu ça.
Ben, en fait, c'est ça. Donc, juste pour être bien clair, moi, la question que j'ai posée hier, c'est est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Est-ce qu'on peut savoir de combien de personnes on parle puis quels programmes sont touchés? Parce que clause grand-père, nous autres, on est d'accord. On l'a dit,
d'accord.
Ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une clause grand-père pour les travailleurs étrangers qui se trouvait ici en 2025, on a suspendu le programme du PEC, mais qui était là en fonction ou dans les programmes qui relèvent du gouvernement du Québec. Donc, depuis 2024, nous, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'il s'agit de permanentiser des gens qui se trouvent sur le territoire, il faut déjà utiliser les ressources qu'on a, des gens qui se trouvent en région, dans des secteurs d'économie où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais pour ça, décréter un moratoire sur l'immigration économique permanente à l'international pour justement favoriser les gens qui sont déjà ici. Donc, là-dessus, on s'entend.
Mais là, pourquoi on m'a toujours dit que le PQ n'en voulait pas d'immigration? Pourquoi on m'a toujours dit que la CAQ n'en voulait pas? Mais là, Bernard Drinville, Christine Fréchette annoncent chacun de leur bord des clauses grand-père. Je comprends plus rien. Ils sont censés être les méchants. Les bons, c'est censé être les libéraux puis QS qui veulent ouvrir
le
Québec à planète entière.
Qui, par bonté d'âme, veut recevoir
le secteur économique aussi. Là, je comprends plus rien. Comment ça, le PQ rendu d'un bon, Christine Fréchette aussi, c'est qui le méchant? Tu sais, c'était facile pour moi, là. PQ, CAQ, vous êtes des méchants, vous en voulez pas. Libéraux, QS, vous en voulez trop. L'économie, vous autres, vous êtes les bons.
Puis, OK, on va commencer un à la fois. Mettons, juste la CAQ.
Oui.
Là, Bernard Drinville, pendant le début de la campagne, pour foutre un peu le trouble, dit « Moi, je suis pour ça, la clause grand-père. »
Oui.
Là, tu dis « Oh! Il veut plus d'immigrants, il veut monter ça, il veut
ben oui.
une clause grand-père dans un potentiel bassin de 300 000 personnes. » Fait qu'il veut plus d'immigrants.
Ben oui.
Mais là, finalement, Christine Fréchette bouge, puis dit « Bon, regarde, moi, je veux pas donner clause grand-père, mais je veux rouvrir le PEC pour permettre à ces personnes-là de terminer de financer
ouais.
une clause grand-père. » Mais non, c'est pas une clause grand-père.
C'est...
Puis là, Bernard Drinville dit « Wow, 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 là! Ça m'a tout l'air d'un bar ouvert, ça! »
Ben oui!
Fait que là, qui est pro-contre immigration, close grand-père, pas close grand-père? Puis ça, c'est juste le même parti.
Oui, puis là, à ta minute, Bernard Drainville aussi dit « Wow, wow, wow! » Faudrait réviser notre façon de voter à CAQ.
Oui!
Il y a des gens que ça fait 6 mois qui sont au Québec qui vont voter. Ça n'a pas d'allure, ça!
Puis peut-être qu'il y avait des il y avait peut-être des immigrants temporaires qui se disaient « Hey, moi, je vais prendre ma carte de membre, puis je vais voter pour Bernard! »
Je vais voter Bernard, mais
parce
là, Christine...
veut me donner une clause grand-père.
Mais là, c'est là, Christine, non. finalement, qui m'a donné. Fait que là, Bernard dit « Hey, faudrait pas qu'ils votent, eux autres! »
Bon, fait que ça, c'est juste la CAQ.
OK, okay? On est déjà mêlés, là.
Donc, déjà, tout le monde veut une clause grand-père, mais personne veut une clause grand-père. Retenez ça.
Dans la CAQ, ça.
Dans la CAQ.
Oui, puis là, ils sont obligés de se démerder. François Legault est obligé de se lever pour dire « Le PSTQ, c'est bon, mais il y a pas personne qui va faire le programme spécialisé pour les travailleurs qualifiés non. dans les deux chefs qui sont présentement dans la course. » Fait que si c'était si bon, il y en a un des deux qui le ferait.
OK. Là, je reviens à Alex Boissonneau. OK?
Ouais.
Parce que ce qu'il dit, honnêtement, même si tu trouves ça mélangeant, c'est juste vrai. C'est que il y a des gens qui nous disent « Ah, ça va être pas beaucoup de monde là, si on donne une clause grand-père. Là, ça va être 20 000 personnes. » J'ai entendu ça comme chiffre, 20 000 personnes. Juste à Québec, ce que le maire Marchand demande, c'est 19 000 personnes. Je crée bien que ça ne sera pas 20 000 à l'échelle du Québec, c'est,
ben non, c'est
20
000
à Québec. Et on le sait aussi que ça ne sera pas 300 000.
Non.
C'est quelque part entre 20 000
et 300 000. Mais est-ce que quelqu'un peut me donner le chiffre?
Non, personne ne peut te donner le
chiffre. Il n'y a personne qui le
parce
dit,
qu'il faudrait
c'est ça.
Rentrer dans la tête du monde qui pensait peut-être appliquer au PEC. Puis ce que le PQ dit, c'est nous, on ne peut pas dire oui, non, si je ne sais pas de combien de personnes il s'agit. On fait une planification de l'immigration. On se met des seuils en place. On peut faire preuve de flexibilité, mais à un moment donné, il faut planifier l'immigration. Bien, le plan d'immigration qu'on a fait lors des dernières planifications, il n'y a plus rien qui tient. Là, on est rendu que ça va être n'importe quoi, finalement, les seuils d'immigration. Donc, moi, je suis un peu d'accord avec le PQ. Et finalement, Jean-François Roberge, la solution qu'il proposait n'était peut-être pas parfaite. Puis moi, je pense qu'on pouvait faire preuve d'encore plus de flexibilité pour accommoder les gens qui sont déjà ici, effectivement, et qui se sont supposément fait faire des promesses. D'ailleurs, j'aimerais ça savoir qui a promis quoi à qui. OK? Parce que j'entends les témoignages et je suis très sensible aux témoignages. Et moi aussi, je trouve ça absurde de mettre dehors des Français qui travaillent.
Ben oui. Tu sais, je vais donner l'exemple. On a eu une auditrice, justement, à qui on a parlé. Elle est coiffeuse. Son mari travaille l'hiver dans le déneigement, l'été dans les toitures. Mais là, parce qu'ils sont pas dans des métiers dits spécialisés, ça fait 3 ans qu'ils sont ici, ils parlent entièrement français. Les enfants sont à l'école. On va leur dire ciao, bye.
Ben, leurs impôts, ils travaillent.
Fait, bon. Ça, je me dis, boah.
Oui, mais en même temps, il y a toujours des gens qui vont. Tu sais, je veux dire, il y a des seuils d'immigration. À un moment donné, la clôture va se fermer devant toi, puis ça va être triste pour.
Ouais.
On n'arrêtera pas de décevoir des gens. Par
fait
contre,
là,
ça a l'air qu'il y a des gens.
T'es en train de me dire laisse ton côté humain de côté.
Non, je suis en train de te dire qu'il faut faire un peu l'équilibre entre les statistiques, les seuils d'immigration, puis le côté humain. C'est qu'à un moment donné, si on est si humain que ça, il faudrait accueillir tout le monde. C'est pas possible non plus. Fait que,
c'est
faut
c'est
assumer.
Vrai, c'est un bon point.
Faut assumer à un moment donné. Par contre, quand on montre des faux espoirs à des gens, puis qu'après ça on change les règles. Mais là, ça ne fonctionne pas. Il faut faire des mesures transitoires. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'a pas mis ces mesures transitoires dès le départ à l'annonce de la fermeture du PEC. Ils ont refait la même erreur qu'ils ont fait en 2019 avec Simon-Jeanin Barrette quand ils ont sacré un paquet de dossiers d'invidange là, avec la réforme du PEC. Donc, on refait toujours la même erreur. Mais la solution de M. Robert, je dis, écoutez, appliquez dans le PSTQ et on fera preuve de plus de flexibilité. Pour moi, je trouve que c'est la solution. Par contre, je veux qu'on dise la vérité aux gens. Combien d'immigrants permanents supplémentaires va-t-on accueillir de plus que les seuils de 50 000 en 2026, en 2027 et en 2028?
Parce que c'est eux qui vont passer par le PEC qui va rester ouvert pendant 2 ans, c'est Christine Fréchette qui est élue.
Bien, semblerait. Mais même si que tu les rentres dans le PEC ou tu les rentres dans le PSTQ, là, on s'entend pour dire qu'il faut mettre des mesures transitoires. Après ça, moi, je m'en fous. Je trouve ça un peu ridicule de rouvrir le PEC, honnêtement, parce que quand tu vas le refermer, tu vas recréer un autre mélodrame. Politiquement, c'est pas une bonne idée. Mais cela dit, ils font mettre ce qu'ils veulent. Là.
Toi, conseillère politique, tu aurais dit à Christine Fréchette, trouve pas le PEC, envoie ça comme Robert, je le disais, dans le PSTQ, mais revois juste tes seuils à la hausse pour qu'il y en ait qui puissent entrer dedans.
Fais un sous-programme d'exception dans le PSTQ où la coiffeuse va réussir à se qualifier, là, puis qu'elle se qualifiera peut-être pas des années suivantes. Par contre, il faut allonger aussi les permis de travail pour donner la chance aux gens de ne pas être expulsés par le fédéral dans l'entretemps. Et d'ailleurs, j'aimerais dire que... Écoute, j'ai un quiz pour toi, Jeff, qui vise toujours à te rendre mal à l'aise et à que t'aies l'air fou, mais c'est mon point.
Je suis super
Nomme-moi
content.
Nomme-moi la ministre de l'immigration fédérale.
Hey, c'est vrai, c'est qui, donc, la ministre de l'immigration fédérale? Parce qu'on entend toujours Joëlle Lightbound en parler. C'est pas Anita Allen?
Non.
Dang, c'est qui?
Une madame qui s'appelle Madame Diab. OK, j'ai oublié son prénom, vous m'excuserez. Okay. Parce qu'on la voit jamais.
Ben non!
Mais... OK? Puis tu peux essayer de faire des demandes d'entrevue. On pourrait le faire en blague, là. Dans les deux prochaines semaines, on demande des entrevues à tous les jours. Elle viendra jamais.
Elle viendra jamais.
C'est pas parce qu'elle parle pas français, elle parle français.
Elle parle français, OK, parce que c'était mon autre affaire. Là. J'allais dire, est-ce qu'elle va nous dire que les queues s'emballent, là? Mais là
non, elle n'est pas supposée. Elle parle bien français. Elle vient, elle vient du Nouveau-Brunswick. Donc, elle est complètement invisible. Et le fédéral a décidé drastiquement de couper dans les permis de travail. Moi, c'est une autre affaire. Eux aussi devraient mettre des mesures transitoires. On peut pas être le bord ouvert des travailleurs étrangers temporaires, puis tout à coup, hop, c'est fini, puis on en met apporte 150 000. Pourquoi? Faites donc des politiques d'immigration sur le long terme un petit peu plus. Puis quand tu changes une règle, tu sais, évacue les gens qui sont arrivés dans le cadre des anciennes règles avant de mettre en application les nouvelles règles. Il me semble que c'est pas si compliqué que ça. Mais bref, cette question d'immigration à la CAQ, c'est vraiment l'illustration parfaite de pourquoi c'était pas une bonne idée de faire une course de 2 mois avec le Parlement ouvert, avec plein de dossiers en suspens.
Lambert Drinville nous a dit la même chose hier. Il dit « Quand est-ce qu'on va proroger ce Parlement? »
Mais même si tu le proroges, l'affaire, c'est que la prorogation, c'est une bonne idée parce que les périodes de questions viennent amplifier la problématique. Parce que les oppositions utilisent...
Mais hier, j'écoutais Marc Tanguay à François Legault.
C'est du bonbon, là.
C'est du bonbon,
ben
là.
Oui. Je sais, c'est trop facile.
Les jeux de mots qu'il fait, c'est hallucinant. Là. Oui. Il fait juste s'amuser avec la CAQ à l'heure actuelle. Mais il y a un animal blessé en avant de lui, puis il tend un petit bonbon, puis let's
mais
go. Là.
Les gens qui sont contre la prorogation, les oppositions notamment, vont vous dire, le but, c'est pas de fermer le Parlement puis d'arrêter le pouvoir législatif de siéger. L'objectif, c'est arrêter que le gouvernement gère pas ça tout croche.
Ouais.
Parce qu'eux autres, ils veulent pas qu'on ferme le Parlement à les oppositions. On s'entend, là, c'est eux, la période de questions, c'est le highlight de leur semaine. Pour le gouvernement, c'est pas ça. Le highlight de la vie d'un ministre, c'est quand il rentre dans son cabinet puis qu'il peut faire avancer ses dossiers
ben oui.
Et pas répondre aux questions de l'opposition. Sauf que moi, je pense qu'on le réserve à une course beaucoup plus courte. Je pense que M. Legault, en tout respect, aurait dû quitter et nommer Éric Girard comme chef intérimaire.
Oui, parce que là, tout le monde est pour le troisième lien. Là, le PSTQ, c'est bon. Fait que là, il met encore son image et ses pensées à la CAQ.
Oui.
Puis ça force, justement, une Christine Fréchette souvent à revoir ses positions parce qu'elle veut pas se coller sur leur logo. Elle va perdre, ça se colle dessus.
Ben c'est ça. Fait que là, tout le monde est terriblement mal à l'aise. Et je dois dire que je trouve que M. Drinville en profite davantage. Parce que quand on regardait le début de la course à la chefferie, ben, on trouvait que Mme Fréchette s'en allait vers une victoire. Tu regardais les sondages, c'était assez clair. Et M. Drinville, lui, devait brasser la cage. Donc, je pense qu'il profite un peu plus du chaos présentement.
Ben oui.
Parce que Mme Fréchette a l'air de moins bien prendre la chaleur.
Oui.
Tu sais, la question du PEC, moi, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise décision de ne pas maintenir la position qu'elle avait. De dire, écoutez, ça va passer par le PSTQ. Par contre, savez-vous quoi? On va être plus généreux. On va mettre des critères un peu moins serrés pour les gens qui étaient déjà ici. Donc, ça va équivaloir à une clause grand-père. Mais là, dire, on va rouvrir le PEC et annoncer ça sur Facebook 10 minutes avant la période de questions. Pauvre Jean-François Roberge.
Ben, en n'ayant même pas parlé à Jean-François Roberge.
Ben, je sais pas si se sont parlé. Puis,
il a dit hier que...
Elle l'a appris de même. Là.
Elle l'a informé. That's it.
Moi, je trouve ça épouvantable parce que... Il reste encore quelques députés et ministres qui sont importants comme appui dans cette course-là. Je pense à Lionel Carman, je pense à Martine Biron. Et c'est pas banal, Martine Biron. Peut-être que ça vous vient moins vite en tête, sauf que c'est l'autre député qui est sur la rive sud.
Oui.
Donc, si Mme Fréchette présente une position du troisième lien et que Mme Biron appuie Christine Fréchette, ça risque de l'aider dans la région de Québec et de faire un peu suer Bernard Drinville.
Dans un cas où que, là, c'est ça qui semble annoncer, Christine Fréchette gagne. On voyait des pourcentages quand même hauts pour la CAQ dans les sondages. Est-ce que ce qu'on voit présentement à la CAQ commence déjà à faire mal à un potentiel chef qui pourrait arriver après?
Bien, moi, je pense que oui. Je pense que, d'un côté, le fait de se faire brasser par Bernard Drinville, puis je vais donner d'autres exemples juste après, ça permet à Mme Fréchette d'être testée parce qu'après, elle va se faire attaquer par les oppositions, elle va partir en élection l'automne prochain, si elle gagne, bien sûr. Et c'est bien d'avoir, disons, passé une certaine épreuve, là, comme un entraînement sportif, là, finalement. Par contre, il ne faut pas se blesser pendant l'entraînement, n'est-ce pas? Donc, M. Drinville, s'il va trop fort et qu'il ne gagne pas son pari à lui de gagner la course à la chefferie, il risque de maganer la chef de son parti. Donc, il joue un peu le tout pour le tout. Et c'est sûr qu'on peut se poser la question sur ça sert l'intérêt de qui. Lui, il doit être très, très convaincu que l'intérêt de la CAQ, c'est que lui, il gagne la prochaine campagne. Mais pour l'instant, c'est vrai, quand on regarde les sondages, on se demande comment, sur quoi il s'appuie pour dire ça. On verra. M. Drainville a lancé d'autres pavés dans la marche. Je le trouve vraiment à l'offensive dans les derniers jours. Bon, le PEC a réussi à faire bouger Mme Fréchette, puis c'est un coup de maître, parce que là, il a l'air d'être moins pro-immigration qu'elle, tout en ayant demandé une clause grand-père. C'est vraiment fascinant. Sur le troisième lien, sa position est très claire et elle est précise depuis le début de la campagne, alors que Mme Fréchette tergiverse. On me dit qu'au cours de la semaine prochaine, on devrait avoir une position sur le troisième lien.
Et on va souhaiter qu'au cours de la semaine prochaine, elle vienne s'asseoir ici avec
nous.
On
l'invite chaleureusement à venir nous expliquer tout ça si elle a cette position sur le troisième lien. Et si la position n'est pas encore annoncée, elle est la bienvenue pour venir nous parler aussi de d'autres sujets.
Exactement.
Là, M. Drainville, hier, a attaqué les règles de la course à la chefferie.
Ben oui!
Tu le disais tantôt, il ne veut pas que les non-citoyens puissent voter dans le cadre de la course à la chefferie. Peu importe ce qu'on pense sur le fond, parce que moi, je ne pense pas que c'est un énorme enjeu, surtout que tout le monde est tout mélangé sur les positions dans l'immigration. Fait que même une mobilisation de non-résidents, je ne suis pas sûr que ça...
Non, c'est ça. Ça ne prend pas comme la mobilisation de fermiers contre Maxime Bernier, au Parti conservateur du Canada.
Parce qu'il était contre la gestion de l'offre.
On remercie d'ailleurs ces fermiers-là de l'avoir fait. Imaginez si Maxime Bernier avait gagné la chefferie du Parti conservateur du Canada.
Ben, je pense que le Parti libéral serait au pouvoir pour toujours.
C'est ça. Quand hier, il est sorti pour dire « Voyez, je vous l'avais dit, les trans, tous les trans sont des meurtriers, sont des tueurs en série. »
Les statistiques sont pas de
cet avis. Non, c'est ça.
Donc là, M. Drainville remet en question les règles de la course à la chefferie, ce qui va forcer Christine Fréchette nécessairement à se positionner encore une
fois.
C'est
clair.
Puis à dire soit « Ah ben Bernard a raison » ou « Non, moi je veux que les non-citoyens puissent voter. » Donc c'est un lose-lose pour Christine Fréchette. Et rappelons aussi que M. Drainville a demandé davantage de débats, parce qu'il y a deux débats, un le 21 mars, un le 28 mars, qui seront animés par l'ancien chef d'antenne Pierre Jobin, cela dit. Mme Fréchette ne veut pas avoir davantage de débats. Donc, tu sais, le monde se dit « Ah, ben là, elle a peur, elle est prudente, pourquoi elle ne veut pas débattre, etc. » Donc, il est très fort. M. Drainville connaît tous les trucs dans le grand livre des campagnes et des courses à la chefferie, mais est-ce qu'il est capable d'aller chercher la faveur des électeurs dans une élection générale? Évidemment, c'est la question qui demeure.
Exactement. Là, des beaux textos qui rentrent, notamment une personne qui dit que... Elle est en France, elle a déménagé en 2014 pour sa maîtrise à l'Université Laval. Elle y est toujours. Papa est fraîchement propriétaire d'une maison dans Limoilou. Donc, évidemment, on a des beaux exemples comme ça là, avec l'immigration. J'aime toujours ça le rappeler. PO qui mentionne quelque chose qui, moi, pour moi, faisait. C'est exactement ce que la CAQ proposait. Là. Tu fermes le PEC, t'envoies tout le monde dans le PSTQ, puis tu te dis, ben, coudonc, t'sais, c'est si tu te qualifies là-dedans, ben, tant mieux, tu restes. Sinon, ben, malheureusement. Ça aurait été un passage à Québec ou au Québec là, pour toi. C'est ce qu'on privilégiait, mais évidemment, là, les colonnes du temple ont tremblé.
Il y a une grosse
évidemment.
Mobilisation qui a eu lieu. Et puis c'est sûr que quand tous les maires du Québec puis tout le secteur privé met de la pression, les syndicats également, il y a de la pression. Mais tu sais, à un moment donné, ça ne pourra pas être ça à tous les deux ans non plus. Là, parce que des seuils d'immigration, ils ne sont pas mis pour rien. Il y a une capacité d'accueil également. C'est juste qu'il faut que nos politiques soient en phase avec ce qu'on dit aux gens.
En plein.
On les attire ici en leur disant quelque chose. Donc là, à un moment donné, il faut livrer.
En effet, t'as entièrement raison. On est dans le caucus avec Antonine Iacarini. C'est du lundi au jeudi à compter de midi. Antonine, parlant de colonne du temple, il y a un juge que je connaissais pas, moi, le juge Fournier, qui a déposé un rapport et qui a parlé hier au bilan. Je te laisse entendre parce que là, il a parlé de montage sur les textos de Brownings.
Comment vous pouvez... Non, c'est pas exactement ça, si vous permettez. Dans un premier temps, il y a eu des textos, une série de textos qui datent, qui est datée là, entre le 11 et le 13 avril. Ces textos-là ont été envoyés à Mme Lacoyanne, qui était députée de Chaumédé, et M. Fortin, du Journal de Montréal, a communiqué avec Mme Lacoyanne. Hein? M. Fortin lui a demandé si c'était vrai.
Bref, on comprend dans tout ça que le juge Fournier est arrivé pour produire un rapport. Puis là, il a parlé avec un peu tout le monde, mais il n'a pas la... Il n'est pas capable, en raison que c'est une enquête indépendante, de dire « OK, Journal de Montréal, fournissez-moi vos preuves », comme un peu un commissaire
pas,
le ferait, comme le commissaire
Galland
ferait, exactement. Fait que dans le fond, il produit un rapport en disant « Ben, je pense que ça a été un montage, puis je pense que c'est ça, puis je pense que c'est ça. » Puis là, on comprend qu'on essaie le plus possible de préserver la réputation de Pablo Rodriguez. Je suis dans le champ.
Ben, écoute, non, tu n'es pas dans le champ. Premièrement, je tiens à dire que c'est une opération de communication qui est assez réussie parce que hier, les titres, c'était un rapport conclu à un montage.
Oui.
Puis, tu sais, les gens, ils lisent souvent juste les titres. Puis, je me suis dit, attendez un instant, là. C'est beaucoup plus nuancé que ça.
Ben non, c'est
ça. Un rapport du Parti libéral.
Ça
d'un juge qui dit qu'il était un chien de chasse édenté, il dit ça lui-même de ses moyens, conclut que c'est peut-être un montage.
Mais ça venait de la presse.
Ben oui, parce que c'est
une stratégie. On a des petits billets, mais, des fois, ben, les médias.
Le Devoir aussi a titré des textos sur les brownies au PQ sont un montage.
Oui, mais ça a commencé par un exclusif à la presse. Okay? Ouais. Puis en tant que personne qui a fait des relations de presse une bonne partie de sa vie, donner un exclusif à un média qui est gentil avec toi, c'est sûr que ça enligne la nouvelle.
Après, c'est clair.
Les gens ont plus tendance à reprendre un peu des fois la même chose, au moins dans les premières heures.
Ouais.
Donc, ça a comme... Moi, j'étais hier dans un événement, là, j'étais pas partout en train d'écouter les nouvelles, j'étais bien occupée, puis tu sais, je vois ça apparaître, puis je me dis, hey! Ils ont prouvé que c'est un montage. Puis là, après ça, tu lis les petits caractères, puis tu dis, ben non, c'est pas exactement ça. Donc, moi, ce que j'ai compris de l'explication de M. Fournier, c'est que... Et ça concorde avec ce que des sources m'avaient dit pendant la crise. Et des sources caquistes et libérales, OK?
Parfait.
Que si tu regardes les textos qui ont été publiés par le journal versus les textos qui leur avaient été soumis, parce que le bureau d'enquête avait contacté les partis politiques à l'époque, notamment à la CAQ, pour dire, là, on a des textos de Mme Abou Khalil, une des députées de Laval de la CAQ, qui jaserait avec Sona Lakoyan de ça. Et, bon, on m'a donné une explication que j'ai achetée. Et à partir de ce moment-là, moi, je n'ai jamais cru que Mme Abou Khalil était liée à ça. Après ça, pour Mme Lakoyan, je ne le sais pas. Mais je me suis dit, comment on fait pour démontrer que ces textos-là sont vrais? Et c'est ça que Pablo Rodriguez a demandé au journal quand il a fait sa mise en demeure. Il a dit, je ne veux pas savoir vos sources. Je veux que vous nous démontriez comment vous faites pour valider. Parce que moi, là, je peux écrire à Mathias tantôt. On change nos noms là, dans nos fiches contacts.
Oui.
Puis là, tu t'appelles François Legault. Puis moi, je m'appelle Pauline Marois. Puis là, je te dis, je te livre...
Tu me dis n'importe quoi.
Je te dis n'importe quoi. Là, on fait une capture d'écran, on envoie ça à des journalistes.
Tu dis, le livre bleu, c'est de la crotte. Je sais, ben, on n'est plus souverainistes.
Puis le boulevard, on sort une grosse exclusivité puis on part en émission spéciale avec ça. Je te dis pas que les journalistes du Journal de Montréal ne sont pas rigoureux. Je dis juste que c'est normal qu'on s'interroge parce que de nos jours, et ça va être de plus en plus le cas, parce que c'est facile maintenant pour tout le monde de produire toutes sortes d'affaires avec un ordinateur.
Mm-hmm.
Donc, je trouvais que, disons que dans le système de justice, le doute raisonnable, c'est suffisant pour disculper quelqu'un. Hein, t'sais, non coupable.
Ouais.
En politique, c'est pas le cas. Et là, il reste une enquête de l'UPAC, une enquête du directeur général des élections, la poursuite de Geneviève Vince envers Marois Risky. Donc, il y a plein...
L'enquête de la commissaire à l'éthique aussi.
Et l'enquête de la commissaire à l'éthique. Donc, il nous reste plein de morceaux de puzzle. Et évidemment, je ne m'attendais pas à ce que le rapport qui a été commandé par le Parti libéral soit catastrophique pour le Parti libéral. Mais mon avis personnel, j'ai jamais parlé de ces textos-là comme étant la vérité solide, vérifiée, hors de tout doute. J'ai toujours été prudente parce que je le sais pas, et que c'est grave de lancer des accusations comme celle-là. Pour M. Rodriguez, moi, j'ai toujours pensé aussi qu'il a été très négligent. Il faut pas oublier que l'histoire de la soirée de financement chez Emmanuel Cabral, où M. Cabral donnait des centaines à des gens...
Ça existait.
Oui, puis il l'a même pas nié.
Ça,
c'est pas correct, et ça demeure. Là. Et ça, l'UPAC, le DGE fera les vérifications, et ça a pas disparu. Mais l'histoire des textos, j'ai toujours eu un petit...
Je comprends ta prudence, évidemment. Je termine là-dessus. Silence, Parti libéral, par exemple. Ça sort des médias, mais il n'y a pas de conférence de presse. Il n'y a pas... Je me trompe-tu,
Mathias? Marc Tanguay
commenté ce matin.
C'est sûr que quand tu es en période de travaux parlementaires, les journalistes les accrochent dans le corridor. Oui. Donc, ils ont commenté. Eux, ils achètent à 100% ce que M. Fournier leur dit, là, c'est la vérité, il n'y avait rien là, tout ça est faux. Voilà.
Oui, bien, justement, Marc Tanguay a surtout attaqué le fait que Jacques Fournier se comparait à un chien de chasse édenté. Puis lui, il disait, ben non, c'est exagéré, ce rapport-là, il est véridique, puis ce rapport-là, il est sérieux, puis il montre qu'on a pas mal fait des affaires.
Je pense que les libéraux n'étaient pas très satisfaits du service après-vente.
C'est ça.
M. Fournier, qui n'a pas défendu son rapport autant, de manière aussi rigoureuse et énergique qu'il a fait son enquête, semble-t-il.
Exactement. Donc, à suivre dans le dossier des libéraux, chose certaine, peut-être bien plus le fling-flang d'Ottawa qui a sorti Pablo Rodriguez que des textos.
Ben, puis je termine là-dessus. Mais Marois Risky, qui renvoie la directrice de cabinet sans mettre M. Rodriguez dans le coup, mm-hmm. sans même l'histoire que le Journal de Montréal a sortie, elle l'avait tué déjà. Parce ouais. que tu sais pas contre quoi tu te défends. Il a eu l'air d'un pic-pic. Il a été très mauvais en communication. Je pense que c'est pas le chef le plus équipé pour faire face à une crise comme celle-là non plus. Mais Marois Risky, ce jour-là, a tué Pablo Rodriguez.
En effet. Antonine Iaccarini, c'est toujours un plaisir. On se parle lundi prochain.
À lundi.
On va avoir une grosse semaine lundi prochain, la semaine prochaine. Là.
Oui. C'est un beau lapsus. On ouais. va avoir une grosse semaine lundi parce qu'il y a du stock lundi.
Oui, lundi, ça va être le rapport de la commission Galland. Donc, évidemment, on va parler de ça rien qu'en masse. Puis, on est en train de se monter une bonne brochette de politiciens qui vont venir en entrevue la semaine prochaine.
On va faire un beau tour.
Oui, en tour, tu vas t'amuser. On va notamment parler avec l'homme au tramway de 13 milliards.
13 milliards, hein?
Oui, on va parler avec lui la semaine prochaine, notamment. Oui, puis on est en train de confirmer plein d'autres belles entrevues pour vous. Alors, on en jase sur Boulevard 102.1. Dans un instant, on va vous prouver qu'on parle beaucoup contre le maire Marchand, et avec raison, parce qu'il prend des décisions quand même assez bizarres, comme fermer des patinoires, déneiger des pistes cyclables. Mais là, on va parler de rigueur de l'opposition, hein, Mathias, parce que... il y a un gros manque de rigueur. Puis si le maire Marchand nous en passe 3-4 comme ça, en dessous de la couverte, peut-être parce que l'opposition fait pas son travail.
Puis ça commence à se répercuter sur plusieurs dossiers, là. Fait qu'on va traiter tout ça un peu plus en détail après la pause.
Exactement. Et dans un instant également, Stéphane Turcot va venir s'asseoir en studio avec nous. Oui, aux Jeux olympiques 2042, je me suis
convaincre.
Positionné. Dans un instant, Boulevard 102, l'émission d'Angers. Jusqu'à 4. Émission d'en jase à la météo, c'est moins 1 degré à l'heure actuelle. Hey, imagine, Max. Max, c'est mieux que le maximum qui était annoncé de moins 2. Oh. Moins 5 ensoleillé demain, c'est full soleil aujourd'hui. Moins 5 neige intermittente pour samedi. Oh, je fais le pantathlon des neiges, j'ai hâte de voir. Et moins 4 dimanche, c'est ensoleillé également. Samedi, d'ailleurs, ça n'avait rien à faire. Aller sur les plaines d'Abraham, c'est le pantathlon des neiges. Je vais représenter l'équipe week-end avec nos collègues Matt Marcotte, Gab Marino, Nathan Meyer et Joanie Fortin de week-end. Donc, c'est la deuxième année qu'on m'intègre à la formation week-end.
Là, vous êtes chanceux, la température a augmenté. Oui. On a senti, j'ai descendu tantôt. Je suis sorti, puis il faisait moins 7, je pense, tout à l'heure.
Oui.
Puis j'étais comme crime. Il fait donc bien chaud. Ça fait trois semaines qu'on gèle tellement dehors.
Clairement.
Qu'un moins 7, on aurait dit qu'il fait 15 dehors. Ouais.
Mathias, avant de parler de respect citoyen, une petite parenthèse sur l'avantage numérique du Canada qui vient
incroyable.
De donner le quatrième filet. C'est Nathan MacKinnon qui a marqué sur une passe de Connor McDavid. Un jeu extraordinaire. Passe le B, tire sur réception à l'embouchure du filet. Makar, Crosby, MacKinnon, McDavid. Et comme on a mis Sam Reinhart sur le quatrième trio, on le met en haut, là, autrement dit, dans le haut de l'enclave, sur le premier avantage numérique. C'est un avantage numérique à tout casser.
Ben pour ceux qui ont écouté les quatre nations, c'est exactement le même avantage numérique qu'on avait, qu'on a répliqué. La mobilité qu'on a avec des Makar, des McDavid, des MacKinnon, des Snipers. Là. MacKinnon, cette année, avec McDavid, c'est dans les meilleurs scoreurs. Tu rajoutes à ça Sam Reinhart qui a tout un tir. Ce power play-là fait peur, puis fait peur à plusieurs équipes présentement aux Olympiques, selon moi.
Ah, oh, vraiment. En attente de Stéphane Turcot pour parler de la possibilité d'avoir les Jeux olympiques à Québec, Mathias, on veut parler de respect citoyen et d'une certaine rigueur qui n'est pas là à l'heure actuelle dans l'opposition. Et ce serait pourquoi Bruno Marchand se permet de passer quelques règlements. Là.
Ben, on en a parlé. Bruno Marchand semble avoir un mois plus difficile. On a annoncé des coupures de certaines patinoires, potentiellement des coupures de place en camp de jour, travaux du tramway qui ont été annoncés, qui n'ont pas été bien reçus. Puis pendant ce temps-là, du côté de l'opposition, on semble comme pas en mesure de changer des choses, de faire avancer des dossiers. On ne dépose pas d'avis de proposition. On pourra revenir sur ça d'ailleurs tout à l'heure. Puis là, hier, il semble avoir un manque de rigueur dans plusieurs dossiers. Puis hier, on nous a envoyé un communiqué du côté de l'opposition officielle. Le maire Marchand qui a pris la parole devant la Chambre de commerce durant un déjeuner hier pour présenter sa vision économique de Québec pour les prochaines années. Puis dans le communiqué, on critique le fait que le maire Marchand a dit... qui allait potentiellement avoir une augmentation de la taxe liée à l'eau et aux matières résiduelles dès 2027 pour les commerçants. On dit que c'est une nouvelle information, qu'on n'a pas fait de communiqué officiel, qu'on l'a jamais dit. Pourtant, du côté du maire Marchand, c'est ça qu'on nous a écrit hier, durant la conférence de presse du budget du 3 décembre dernier, on l'a dit mot à mot.
Cependant, je vous l'annonce déjà, là, puis je dis aux gens de ces associations, commerçants, industries, entrepreneurs, là,
ça c'est 3 décembre.
Il va falloir qu'on travaille ensemble. Parce que présent, du carton qu'on ramasse dans nos déchets, là, c'est 70 % qui devrait être recyclé, qui ne l'est pas par ces entreprises-là. Alors, il va falloir faire un effort, gang. Là. Puis cet effort-là, on va utiliser la prochaine année pour en discuter, pour voir les solutions. Mais c'est possible qu'il y ait une hausse de taxes supplémentaire l'an prochain par rapport à la gestion des déchets. On ne peut plus, en 2025, accepter que 70 % des matières recyclables ne soient pas recyclées à Québec parce que nos commerces ne font pas cet effort-là. Ça a un coût, ça représente un coût en gestion de déchets, ça représente un coût en traitement, et c'est la même affaire en gestion de l'eau, là.
Donc, Mathias, le 3 décembre, Bruno Marchand annonce ceci durant le budget. Évidemment, à la suite du budget, il y a des comités plénières. On épluche chaque poste budgétaire. L'opposition a accès à ces comités plénières-là, peut poser des questions. Et malheureusement, l'opposition n'a pas fait son travail avec rigueur, ce qui fait en sorte que là, hier, bang, on est étonné par ça, alors qu'on aurait pu débattre de ça dès le mois de décembre et faire changer d'idée, Bruno Marchand.
Ben, c'est qu'on est étonné de ça, puis on crie au scandale aussi, mais on l'a dit il y a plusieurs mois, c'est pas une information qui est nouvelle. Également, on a pris des chiffres dans la présentation. Une hausse globale de taxation du côté de l'opposition, ça c'est dans leur communiqué. Une hausse globale de taxation de l'ordre de 250 millions de dollars serait projetée. Ça c'est le communiqué de l'opposition officiel. Or, dans le document de la Ville de Québec qu'on a présenté, on parle des investissements prévus dans le but d'avoir un meilleur traitement d'eau. Donc, on parle d'investissement. On parle pas d'augmentation de taxes ici. Donc, encore une fois, c'est un chiffre qu'on prend. Puis, je pense pas que c'est le but de l'opposition de tromper les gens. Je pense que c'est tout simplement qu'on a mal compris l'information qui nous a été donnée. Puis, ça revient à un point qu'on voit de plus en plus. Le parti de l'opposition va avoir besoin de mieux prendre en compte les dossiers, mieux les comprendre, puis mieux s'entourer également. Puis là, je tiens à dire, parce qu'on a reçu un texto, oui, mais ils n'ont pas annoncé la fermeture de patinoire, puis on critique le maire Marchand. Là.
Exactement, mais ce que je veux dire par rapport à ça, puis justement, ça va répondre au texto, c'est fort simple, c'est qu'il y a plusieurs contre-pouvoirs à une administration. L'opposition, normalement, est le premier contre-pouvoir. Ça se doit d'être le chien de garde ultime. À l'heure actuelle, Respect citoyen ne fait pas ce travail-là. Un autre contre-pouvoir qu'il y a, évidemment, c'est les médias. Excellent travail de Taïm Moala dans le Journal de Québec qui sort sur le document de travail par rapport aux patinoires. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait énormément de pression sur Bruno Marchand. Je te garantis qu'il n'y en aura pas 15 de fermés, il n'y en aura pas 9. Il va peut-être en avoir 2, 3 au maximum à cause de cette pression-là. Même principe ici à Boulevard 102, on va se péter les bretelles 2 secondes et quart. On a sorti le scoop qu'il y aurait 6 % des places en camp de jour qui seraient coupées. Bien, ça a fait trembler les colonnes du temple de Bruno Marchand. Je pense pas qu'il va couper de place, selon moi. Il est trop fier de ses résultats sur les camps de jour. Donc, ça, c'est des contre-pouvoirs. Mais l'opposition se doit d'être le chien de garde privilégié. Et présentement, ce qu'on dit, c'est qu'ils ne font pas leur travail. Et un fait à ça, et le prochain extrait qu'on va vous faire entendre, on l'écoute et je vous l'explique par la suite.
Bien évidemment, au niveau des... principalement, en ce qui me concerne, les patinoires qui m'intéressent, j'ai bien compris, par contre, la conférence de presse du maire Marchand hier, qui a dit que c'était un document de travail qui lui a été suggéré, qu'il n'y avait pas nécessairement de décision qui avait été prise à ce sujet-là. Mais j'ai l'intention ce soir de faire des suggestions pour l'aider à se faire une bonne tête sur les décisions qu'il aura à prendre sur ce sujet. Non, c'est pas l'avis de proposition. Non, tout simplement, c'est ce que je veux dire, tout simplement, c'est que je vais parler ce soir de l'aspect traditionnel des patinoires de quartier.
Nick Suzuki, en passant, vient de marquer pour Team Canada. Yes, c'est sir. 5 à 0, un excellent tir du revers haut du filet sur une passe de Connor McDavid. Je vous explique la démarche qu'on doit faire en conseil de ville, d'accord? Normalement, l'opposition, c'est ce qu'on voyait avec Claude Villeneuve à l'époque, c'est ce qu'on voyait avec Priorité Québec également, avec Steven Smalençon et même avec Jackie Smith de Transition Québec. pour tenter de mettre de la pression sur le maire, on doit faire un avis de proposition. Alors, dans le cas de Stéphane Lachance, s'il ne veut pas avoir de patinoire fermée, il doit-tu faire un avis de proposition? Puis là, je vais mettre les deux sujets ensemble. Il devrait faire un avis de proposition en disant, bon, ben, les patinoires, ça coûte 20 000 $. Puis là, je vais reprendre l'argumentaire qu'on a à Boulevard 102.1. Je propose que, compte tenu que les pistes cyclables coûtent 1 000 000 à déneiger et qu'il y a 5 pistes cyclables qui ne sont pas utilisées ou très peu utilisées, je propose qu'on ne déneige plus ces pistes cyclables-là et qu'on mette l'argent à la place dans les patinoires et qu'on ferme aucune patinoire. Ça, ça met de la pression sur le maire marchand. Mais en y a seulement dénoncé au conseil de ville, ça met aucune pression. Et ça, Mathias, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ça prouve une méconnaissance du système de la part de Respect Citoyen.
Et puis en même temps, c'est normal. Présentement, les trois conseillers élus sont à leur première année. C'est la première année qu'ils sont élus. Par contre, en tant que parti, ça va de soi de dire, écoutez, on n'a pas d'expérience. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entourer de personnes qui ont d'expérience puis qui vont pouvoir nous conseiller justement sur comment faire des avis de proposition, comment aller chercher l'information en ligne qui est disponible au lieu de toujours dire, on nous l'a pas dit, on nous l'a pas dit. On aimerait ça, mais on ne propose rien au conseil de ville. Bien beau parler, mais il faut qu'il y ait des actions aussi. Puis en tant que parti d'opposition, tu peux poser certaines actions qui ne sont pas posées actuellement.
Exactement. Donc, c'est pourquoi on souhaite que Respect Citoyen ait plus de rigueur dans le futur, parce que ça prend ce chien de garde-là privilégié pour justement empêcher qu'il y ait des décisions qui sont à l'encontre de la population. Et à l'heure actuelle, c'est les médias qui jouent ce rôle-là. Il faut vraiment que Respect Citoyen se ressaisisse. Et pour se ressaisir, ben, il va falloir qu'il aille chercher des gens d'expérience.
Puis je l'ai dit depuis le début, puis le but, c'est pas juste de faire une critique. Respect Citoyen s'est amélioré sur beaucoup d'aspects. La façon qu'ils ont un discours, ils ont un discours beaucoup plus rassembleur qu'avant. Ils sont capables d'aller chercher une bonne collaboration, je trouve, avec le maire Marchand présentement. Puis sont honnêtes dans leurs critiques puis dans leurs propos. Par contre, comme qu'on dit, pour moi, présentement, ce qui leur manque, c'est une rigueur réelle, une compréhension réelle des dossiers, puis ça, ça passe par avoir autour de soi des personnes d'expérience.
Entièrement d'accord avec toi, mon Mathias.
On en jase. Le show que tu commences au but. À la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase. À Boulevard 102.1.
418-971-1021 pour réagir à la prochaine chronique avec Stéphane Turcot, journaliste chez TVA Québec. Écoutez, ça réagit beaucoup en début de show. Moi, je rêve. J'aime encore rêver. Je vais saluer Stéphane Turcot pour commencer. Stéphane, ça va bien?
Très bien, toi-même.
Ben oui, ça va super bien. Stéphane, es-tu un rêveur?
Oui, oui, oui. Oui. On peut fantasmer, on peut s'imaginer des choses. Là.
Moi, je rêve, Stéphane, à 46 ans des Jeux olympiques à Québec. Tu devais être comme moi, tu devais être au carré d'Youville, même tu devais faire la couverture à ce moment-là.
Le 16 juin 2000.
T'étais-tu en direct avec TQS à ce moment-là?
Ouais.
Ouais.
Direct,
C'est 16 juin, quelle année, non?
95.
On venait de perdre les Nordiques.
C'est un mois après le départ. Oh. Même pas, c'est trois semaines après
trois
le départ.
Trois semaines après le départ des Nordiques. Donc là... Les petits jeunes comme Mathias qui ont 22 ans, là. qui n'étaient même pas au monde quand on a vécu
J'avais moins 8 ans.
C'est ça.
Il y a une voix mature, par exemple.
Oui, mais là, on va le mettre dans le contexte, Steph, si tu veux, OK? On vient de perdre les Nordiques. Ouais. On est catastrophés. On se revire de bord et on dit « Les Jeux olympiques vont s'en venir à Québec. »
Ça a été des années de misère, ça.
Ah oui. Et là, on entend trois semaines plus tard le président du CIO, dont j'oublie son nom, dire...
Juan Antonio Samaranch.
Et voilà dire...
« The 2002 Winter Olympic Game goes to the city au Soleil City. »
Exactement comme ça. Le cœur nous fend en
On n'entendait rien au carré du risque.
Ah, c'était fou, hein?
Rien. Rien, c'était la déception totale. Et pourtant, quelques jours auparavant, la délégation qui était là-bas, c'était à Budapest là, que le vote s'est pris, était confiant. Puis on nous disait, oui, on a des bonnes chances. Hey, 7 votes.
Exactement.
7 petits votes.
On
n'a
même pas pensé proche.
Même pas proche. Évidemment, ça a été le scandale de corruption là, des gens du CIO qui ont été achetés par l'organisation de sortie.
Qui a fait en sorte qu'on a revu les règles par la suite et tout ça. Après ça, Steph, je dois t'avouer, moi, je suis passé dans l'air de « bof, ça sert à rien d'avoir les Olympiques anyway, ça coûte trop cher, on a trop d'infrastructures à bâtir. » Mais là, je trouve qu'on a changé le...
La ville a beaucoup changé.
Exactement. Là, on a un centre Vidéotron.
Oui, on a un centre de glace.
On a, exactement, on a le centre de glace. Centre, on va avoir un centre de curling.
Le centre Pierre-Hervé, bon, Saint-Ferriol, est parfait pour le ski de fond.
Exactement, biathlon aussi.
Oui.
Donc, on va...
Centre de Myriam Bédard à Valcartier.
C'est ça. On a également le pavillon Guy Lafleur qui pourrait accueillir le courte-piste parce que la patinoire se met de grandeur olympique. On a Trois-Rivières pas loin avec un super bel amphithéâtre.
Exactement.
Manque juste une montagne.
Lake Placid.
Lake Placid. Hein, c'est ce que je disais ce matin. Moi, j'en envoie le ski à Lake Placid parce que tout ce qui est bas, ski acrobatique, snowboard, on peut tout faire ça, se tourner à Mont-Saint-Anne, relais.
Exactement. Parce que, et on le remarque, évidemment, c'est en Italie, les Jeux, là, mais c'est très dispersé comme set de compétition. C'est aux quatre coins du pays. Et je pense que c'est l'avenue à choisir pour d'éventuelles candidatures, c'est-à-dire de partager les événements. Québec n'ayant pas la montagne requise selon la FIS, bien, on pourra envoyer tout simplement la descente du côté de Lake Placid.
Oui, puis ce matin, ayons comme comparatif le mondial de football de cet été. Canada, États-Unis, Mexique.
Exactement.
Pourquoi? Parce que ça aurait coûté trop cher à construire des infrastructures pour un seul pays. Les trois pays se sont mis ensemble, puis on se dit, on va l'accueillir.
C'est ça. Puis tu sais, tu peux pas être contre la vertu, là. Ça serait fantastique d'avoir les... Et Québec, je pense, est une ville parfaite pour accueillir des Jeux olympiques. Ça me fait penser un peu à, je sais pas si tu te rappelles, 94, les Jeux de Lillehammer.
Ben
oui. Qui ont sans doute été les plus beaux, là, en termes de... C'est microscopique, la ville de Lillehammer.
Oui, puis là, on n'avait pas construit un gros stade. Exactement. On avait fait quelque chose d'extérieur pour accueillir les athlètes pour la cérémonie d'ouverture, mais c'était très sobre, mais tellement beau.
Québec pourrait avoir ce type, je pense, d'ambiance pour les jeux d'hiver. Mais, tu sais, oui, on peut pas être contre la vertu, mais il faut pas que ça se fasse à n'importe quel prix. On se mettra pas... T'sais, tu peux pas te mettre à construire une piste de bobsleigh, puis de luge, puis de ci, puis de ça, qui ne servira pas partout après. Là.
Mais ça, en mobile, ça se construit comme le Red Bull Crash Test maintenant?
Sauf erreur, Lake Placid a encore ses installations.
Oui.
Alors, tu sais, c'est là qu'on pourrait partager. Puis peut-être. Au pire, on partagera avec... je sais qu'il y a un centre d'entraînement pour l'équipe nationale du côté de Whistler.
Oui.
Pour le bobsleigh. Alors, je sais pas. Mais oui... Mais pas à n'importe quel prix.
En effet.
Mais en même temps, on dit pas à n'importe quel prix, même si on a un plan de match bien établi. Montréal en avait un, Vancouver en avait un, puis malgré ça, on a eu des imprévus, puis les coûts ont explosé dernière minute. Dans le contexte actuel, puis selon moi, c'est ce qui revient beaucoup chez nos auditeurs, puis ce qui revient beaucoup chez le monde, puis ce qui revient chez moi aussi. Est-ce que c'est vraiment le bon moment de dire on va risquer que finalement on aille un imprévu? Que ça nous coûte une fortune puis qu'on doive payer ça sur des années et des années.
C'est comme en affaire. C'est pas ce que tu donnes qui est important, c'est ce que tu reçois en retour. Et tu sais, s'il n'y a pas de retour sur l'investissement, ben c'est un mauvais projet, là. Alors, moi je suis pour une candidature olympique. Et tu sais une chose, hein, parce que après, Québec s'est essayé pour 2010. Finalement, c'est Vancouver. On avait perdu au niveau national.
Oui.
Marcel Aubu, qui était le président du Comité olympique canadien à une certaine époque, m'avait dit « Si on avait postulé pour les Jeux de 2006, qui finalement ont été à Turin en Italie, si on avait soumis une candidature, peut-être que 2010, ça aurait été notre tour. » Mais en 2006, Jean-Paul Lallier, qui était le maire à ce moment-là, disait non. Puis Marcel Aubu le forçait. Tu devrais présenter... Non, parce qu'il se faisait taper sa tête à tous les matins par André Arthur. C'est la seule et unique raison pourquoi Jean-Paul Lallier n'avait pas soumis la candidature de Québec en 2006.
Mais c'est sûr que... Puis c'est vrai pour les Jeux olympiques. Faute des fois, ça va être à la deuxième ou troisième chance.
C'est pas la première
Donc là,
fois.
Le maire Marchand qui commence à en parler va nécessairement falloir déposer une candidature. C'est ça qui parle 2042-2046. Faudrait déposer pratiquement en 2038 pour espérer l'avoir à un moment donné.
Et tu sais, à plus petite échelle, on va avoir des événements dans les prochaines années qui vont montrer la viabilité de l'infrastructure et de l'organisation de Québec. T'sais, l'an prochain, les Jeux du Canada, c'est à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite échelle que des Jeux olympiques.
Ben oui.
Mais ce sont des Jeux multidisciplinaires. On va avoir le championnat du monde de hockey féminin.
Championnat du monde d'hockey junior. Le volleyball est un succès.
Exactement. On attend la réponse pour le championnat, une portion du championnat du monde en 2027.
Ça, ça nous aide, hein, bien
sûr. Oui, je pense, c'est Québec qui avait organisé ça. Ah oui, c'est Québec qui avait organisé ça.
Oui.
Alors, tu sais, ça ajoute dans le cahier de charge là, lorsqu'on soumet la candidature.
Non, en effet. Bon, c'est sûr que là, je rêve, Steph, et je rêve les yeux ouverts, puis je me dis, ça serait-tu le fun que quand je vais avoir 62 ans, je sois bénévole aux Jeux olympiques. Les auditeurs m'en remettent alors. Des voyons, Jeff, il y a toujours des dépassements de coûts. Voyons, voulez-vous vraiment engraisser le CEO puis les Jeux olympiques? Je comprends tout ça, mais les retombées en fierté, les retombées économiques, faut pas les mettre de côté non plus.
Ben c'est une visibilité pour la ville. Tu sais, je pense pas que les gens là, qui regardent les... comme on regarde les Jeux là, à Milan, vont s'acheter des billets d'avion pour aller à Milan l'été prochain. Tu sais, je pense pas que ça, c'est comme ça qu'il faut le calculer. C'est plus en visibilité mondiale, puis en notoriété, puis en crédibilité d'organisation sportive. Ouais. Ça serait l'ultime pour Québec.
Là. Mais c'est-tu encore réaliste, puis on le voit pour plusieurs villes au cours des dernières années, d'organiser des Jeux olympiques à coup pas trop pire, qui finit pas par exploser.
Je reviens, moi, à l'Elamer 94, vous me dire ça fait longtemps, ça fait 30 ans, là. Mais oui, il y a moyen, puis tu sais, c'est ça, parce que les derniers Jeux d'hiver, c'était à Pyeongchang, tu sais, on est obligé de faire souffler de la neige dans la montagne, à Sochi, c'était un...
Ben, c'est une station balnéaire.
Tu sais, ça avait zéro, ça avait pas de bon sens. Là, tu vois, là, Milan, ça fait plus hiver. Les prochains, c'est dans les Alpes françaises, sauf erreur. Alors, tu sais, on revient à des plus petites normes là, pour présenter les Jeux. Je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faut soumettre notre candidature, non pas avoir des idées de grandeur, là, justement, et bâtir des choses qui ne serviront pas du tout par la suite.
Là. Je termine notre entretien là-dessus. Stéphane Turcot, journaliste de sport à TVA, journaliste de sport depuis quoi, une trentaine d'années dans la région de Québec?
34.
Tu y crois ou tu y crois pas?
Aux Jeux?
Oui.
Pour le moment, non.
Pour le moment, non?
Non. Pour le moment, non. Mais on peut rêver.
Mon optimisme vient de tomber.
Non, mais je te dis, on va faire la démonstration dans l'organisation d'événements importants dans les prochaines années qu'on peut aller peut-être un petit peu plus loin. Je pense que ça va donner le goût à des organisateurs puis aux autorités à la ville.
T'as entièrement raison. Stéphane Turcot, toujours un bonheur quand tu viens nous voir en studio.
Plaisir, merci.
On se reparle. J'aime ça, revisiter l'histoire avec toi, même quand c'est une histoire qui nous fait mal au cœur, que ce carré d'Youville.
Trois semaines après le départ de Nordique.
Hey, on avait-tu...
Ah non, puis après, ça avait été des années de misère.
Ben, ça a été des années de misère,
le scandale
après,
de Scorpion. C'est comme le 400e qui a comme relancé la vitalité.
Vraiment, t'as entièrement raison. De 95 à 2008, ça a été très, 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 très morose à Québec. Après la pause, Mathias, moi et toi, on est en couple.
Oui.
Ça va être la Saint-Valentin samedi.
Oui, je monte au Saguenay.
Tu montes au Saguenay pour ta blonde? Bravo, ouais. T'es vraiment bon. Moi, je coach au hockey à 6h à l'Arena du Berger. C'est super timing, c'était cœur. Hein? Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui sont seuls. Et Rémi Villemeux, du 99.5 Montréal, veut nous proposer 5 façons d'être capable d'être en couple sans utiliser les Tinder de ce monde.
Fait que là, Rémi nous parle pas de politique. Non. Il parle d'amour.
Rémi va nous parler d'amour. Rémi aime ça, sortir des sentiers battus. On sort des sentiers battus avec lui dans un instant. Boulevard 101 à l'émission On en jase.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Vous rêvez d'habiter Sainte-Foy? Les logements locatifs d'appartements urbains offrent des espaces lumineux près de...
Oz. 13h14 exactement, émission On en jase. Vous venez d'entendre la Minute olympique. On vous rappelle que le pointage de hockey, c'est maintenant terminé. 5-0, la victoire d'équipe Canada sur la Tchéquie. Le cinquième but a été marqué par nul autre que le capitaine du Canadien de Montréal, Nick Suzuki.
En ce début de tournoi, ça se passe bien pour les joueurs du Canadien.
Oh oui, 26 arrêts pour Jordan Bennington dans cette victoire pour le Canada. On rappelle que Jurav Slafovski a marqué 2 buts et contribué avec une mention d'aide hier dans la surprenante victoire de la Slovaquie, 4-1 sur la Finlande. 418-971-1021 pour interagir avec nous. BLVD.fm, c'est notre web radio, c'est les meilleurs moments. D'ailleurs, notre chronique sur « Est-ce qu'on veut les Jeux olympiques à Québec? » Vous êtes plein à me dire non, puis moi, je continue à dire oui.
à dire non.
On va se retrouver sur le BLVD.fm. App Store, Google Play Store, c'est l'application Boulevard 101 que vous téléchargez pour nous écouter partout. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir voir nos belles petites faces à studio et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. L'excellent caucus avec Antonine Iaccarini va s'y retrouver immédiatement après l'émission. Mathias, avant de parler d'amour avec Rémi Villemur, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Régent Bacon, ce nom-là vous dit peut-être quelque chose. C'est lui qui a été le Père Noël pendant plus de 40 ans dans le quartier Petit Champlain. Eh bien, il a admis aujourd'hui avoir violé au moins 6 femmes alors qu'elles étaient inconscientes ou inerte. Oui, vous avez bien entendu. Là, il filmait ses agressions pour par la suite visionner les images. Ensuite, l'homme de 75 ans qui a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation, notamment infraction d'agression sexuelle, de proxénétisme, de possession de stupéfiants, de voyeurisme là, depuis pendant 6 ans environ. L'homme en question qui conservait un appartement qui appelait lui-même la commune. Il hébergeait des femmes, des hommes avec des problèmes de consommation ou coincés dans le domaine de la prostitution. Puis sa stratégie, en gros, c'était de leur faire signer des contrats puis en échange de gâteries sexuelles ou tout simplement des contrats qui lui donnaient droit de les agresser, mais on s'entend que c'est pas plus légal pour autant, en échange du fait qu'ils hébergeaient. Là. Donc cet homme-là, on va suivre ça de près pour savoir sa peine au cours des prochaines semaines. Je continue dans les faits divers. C'est un curé de 63 ans, Léandre Lapointe, qui a été intercepté dans son domicile de Beauceville. Pourquoi? Il est accusé de divers crimes sexuels commis à des personnes d'âge mineur. Par la suite, il a été libéré après avoir rencontré ses enquêtes. Mais là, il y a plusieurs chefs d'accusation qui pèsent sur lui. On parle d'agression sexuelle et d'exploitation sexuelle sur mineur. Les actes auraient été effectués durant 3 ans en Abitibi de 2010 à 2013. Je termine avec les consultations publiques sur la future gare du TGV à Québec qui ont présentement lieu par la société Alto. Ça a commencé hier, ça se poursuit aujourd'hui. C'est le maire Marchand qui a commenté aujourd'hui en disant que pour lui, que ce soit dans la phase 1, 2 ou 3 du méga projet de TGV, il devra avoir une gare du TGV qui sera relié à une des lignes du tramway de Québec.
418-971-1021, je veux lire vos textos pour la prochaine chronique de Rémi Villemur, parce que je veux savoir, êtes-vous célibataire? Si oui, êtes-vous sur les applications de rencontre? Est-ce que ça marche? Vous n'êtes pas célibataire, vous êtes en couple. Comment vous avez rencontré votre conjoint ou conjointe? Via des applications ou via la bonne vieille méthode? Parce que Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal, du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis matins de 8h à 10h. Vous pouvez aussi l'entendre en chronique avec Richard Martineau à chaque jour. Veut nous parler de ceci. Et moi, Rémi, je suis un vieux gars de 46 ans. Puis je dis toujours le matin, dans Marceau le matin, à Max Larouche, arrête-moi ça, les applications, parce que dans mon temps, fallait se forcer au bord pour prendre notre courage à deux mains, aller jaser avec une fille, y payer un verre, puis là, peut-être espérer aller un petit peu plus loin. Comment ça va, mon Rémi?
Ça va super bien, vous deux. Ben là, je pense que...
Toi, dans ton temps, c'était-tu de même aussi, Rémi, ou dans la jeune trentaine, les applications avaient déjà pris toute la place?
Quand j'ai commencé à m'intéresser aux filles, ça n'existait pas encore. Il faut dire que j'ai commencé assez jeune. Mais au début de la vingtaine, quand c'est devenu plus sérieux, quand je suis arrivé au cégep, université, puis que là, vraiment, la drague devenait une vraie affaire, une vraie scène de ma vie, ben là, j'ai constaté que les applications de rencontre apparaissaient. Ça devenait une option. C'était une option. Hein? C'était quelque chose que... Tu sais, tu étais sur des applications de rencontre, mais tu étais célibataire, mais tu continuais majoritairement d'essayer d'orchestrer ça dans la vie de tous les jours. T'sais, tu allais dans des parties, tu allais dans des bars, tu prenais ton... Là, je parle d'un point de vue d'un garçon. Là. Tu prenais ton courage à deux mains, tu allais voir la fille que tu trouvais de ton goût. Et le soir, quand tu rentrais bredouille... Ben là, t'allais voir si t'avais pas eu des matchs.
Un match, mais... OK.
Ouais, c'était ça que c'était. Mais là,
fait que c'était l'hybride.
Mais c'était hybride, mais c'est parce que ça l'est encore aujourd'hui. Mais c'est juste important de dire que le poids des applications de rencontre était minoritaire. C'était un outil, tu sais, mais la base de la rencontre était quand même fondée sur la rencontre en personne, sur l'idée qu'il fallait prendre ton courage à deux mains et y aller. Là, aujourd'hui... J'ai pas vu les derniers chiffres, mais la dernière fois que je les ai vus, à peu près 30 à 40% des couples là, chez les 16 à 30 ans s'étaient formés sur les applications de rencontre. Donc, c'est difficile aujourd'hui, si on n'est pas hautain, de juger ces gens-là. Hein? Mm-hmm. Si on est hautain, on dit « ben voyons donc, vous n'avez rien compris », mais là, c'est parce que ça commence à faire beaucoup de monde, là, 30 à 40% des gens autour de vous. Puis moi, j'ai des gens autour de moi qui, tu sais, si on fermait les yeux puis on devait s'imaginer ça ressemble à quoi quelqu'un qui a rencontré sa blonde sur une application de rencontre, ben ces gens-là ressemblent pas à ça. C'est-à-dire que c'est toutes sortes de monde à qui ça arrive parce que c'est une nouvelle norme. Moi, mon inquiétude, c'est que ça remplace la première option, qui n'était pas une option, qui était en fait la vraie façon de rencontrer des gens. Puis je me suis mis à réfléchir à ça ce matin parce que j'ai vu passer un texte. On est à 2 jours de la Saint-Valentin. Là. Ouais, comment trouver l'amour sans application de rencontre?
Fait que là, rendu qu'il faut dire aux gens, prenez pas votre application, puis voici comment être un être humain.
Ben c'est ça. Alors qu'il y a 15 ans, on aurait dit comment trouver l'amour sans sortir. Puis là, on aurait, tu sais, sans aller de l'avant. Puis là, on aurait cliqué sur cet article-là, puis on aurait fait, OK, d'accord, il y a aussi cette option-là. Là, c'est rendu le contraire. C'est-à-dire qu'on assume que les gens tentent leur coup sur les applications de rencontre, ça ne fonctionne pas pour certains, et on leur dit, hey, en passant, il existe des options. Quelles sont ces options-là? Participer à des événements, joignez un club en suivant vos intérêts. On parle de cours, ateliers ou équipes sportives, faire du bénévolat, demander à vos amis de vous présenter à des gens célibataires. Ça, c'est rendu le truc qu'on est censé avoir oublié. Mais c'est honnêtement, il y a quelque chose d'à la fois comique et de décadent là-dedans. Là.
Oui, ben c'est drôle parce que moi, il y a 2 ans, j'étais célibataire, puis j'avais essayé les applications de rencontre, puis on dirait que ça collait jamais quand j'allais souper, puis je me suis justement mis à faire 3 recommandations qui sont là-dedans. J'ai demandé à mes amis, j'ai dit, hey, si jamais vous connaissez quelqu'un, présentez-moi-le. J'ai fait du bénévolat à côté, puis je me suis joint à des clubs selon mon intérêt, au gym, dans des groupes sportifs, tout ça. Et là, finalement, ben, j'ai rencontré ma conjointe au travail, mais aussi par le biais du fait qu'on avait en commun l'activité physique. Fait que pour moi, les applications, ça n'a pas du tout marché. C'est quand je suis revenu au contact humain. On a des super bons textos qui sont rentrés depuis le début avec des gens qui nous disent « Hey, j'ai connu les deux, mais je dois te dire que le petit sourire, le petit collage, sentir le côté humain, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu. Puis c'est ce qui fait en sorte que je suis avec mon conjoint, ma conjointe. » Et il y a un autre texto que j'aime bien. « Viens un one night, ça fait 4 ans qu'on est ensemble et je l'adore. » Ça aussi, ça existe, un truc que tu dis « Bah, ça va juste être pour un soir. » Puis finalement, oh, l'amour frappe.
Ah oui, tout à fait. Puis tu sais, c'est sûr que sur une application de rencontre, il y a quelque chose de très technique. Assez rapidement, on en vient à devoir vérifier si l'autre est rendu à telle place dans sa vie, qu'est-ce qu'il aime, alors que ça, des fois, on le découvre assez tard. En fait, on le découvre au bon rythme. Quand on voit quelqu'un de beau dans un bar, puis là, on dit « OK, je vais y aller ». Là, tu es à ton meilleur. Là, tu t'en révèles pas trop. Tu essaies d'être mystérieux. Mais le problème avec les applications de rencontre, c'est que le mystère, il existe encore, mais il est voilé. Dans la mesure où tu t'affiches déjà beaucoup, tu dis t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu te mets en photo avec ta mère, ton chien, tes amis. Tu dis même des fois, « Ah, moi, cherche quelqu'un dont le passé est réglé. » Ça m'a toujours fait rire, cette phrase-là. Là. Le passé est réglé. Même le Québec n'est pas capable de régler son passé. Fait que pour les individus, j'en sais rien. Moi, mon inquiétude, là, je vais être clair, là, parce que je ne veux pas être perçu comme un grognon, là, c'est que la technologie, des fois, nous fait désapprendre. C'est-à-dire qu'on pense souvent que c'est un outil de plus et qui s'ajoute à quelque chose que l'on sait que l'on sera toujours hors. Depuis que l'autocorrecteur existe dans nos vies, on écrit moins bien notre français. Depuis que ChatGPT existe, on n'est plus capable de réfléchir par nous-mêmes. Et les applications de rencontre, j'ai bien peur que ça va nous empêcher de rencontrer des gens dans la vraie vie. Combien de gens j'ai rencontrés, moi, qui sont sur des applications de rencontre et à qui j'ai dit « T'as pas essayé en personne? » « Oui, mais comment tu veux que je procède? Comment ça marche, ces affaires-là? » Comment ça marche? Je devrais être en train de t'expliquer comment ça marche une application de rencontre, pas le contraire.
Puis de toute façon, là, puis j'aime beaucoup ta réflexion, Rémi, parce qu'une application de rencontre, c'est vrai que certaines personnes en auraient dit, ils ont un archétype précis, puis il faut que tu coches toutes les cases, puis si tu coches toutes les cases, ben là, tu pourrais marcher, puis là, on va se rencontrer, puis il faut développer de quoi absolument rapidement. C'est parce que, puis je le dis souvent, j'ai certains de mes amis qui sont pas en couple, puis ça marche jamais pour être en couple. Puis moi, c'est le même, je le vois. Si tu veux absolument forcer des choses, si tu veux absolument tel type de personne, puis tu veux absolument que ça donne ça avec cette personne-là, ben c'est en forçant des choses autant que tu finis que ça marche jamais avec personne. Puis c'est exactement, j'ai l'impression, ça, que ça force un peu les applications de rencontre. Faut laisser plus aller des choses, se laisser aller. Tu sais, il va y avoir la Saint-Valentin, là. Bon. Je parle peut-être à certaines personnes qui sont pas allées au bar depuis plusieurs années, mais des soirées de Saint-Valentin,
oui,
que ce soit dans des bars ou que ce soit dans d'autres lieux.
Allez-y!
Mon frère, c'est comme ça qu'il s'est fait sa blonde présentement. Ils ont un enfant ensemble, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Des soirées Saint-Valentin, c'est plein de personnes célibataires qui, peut-être pour eux, l'amour ne marche pas malheureusement depuis certaines années, qui veulent rencontrer du monde. Là, c'est le moment de vraiment dire, on laisse notre application de côté, puis on essaie être en vrai avec des personnes.
Oui, puis tu sais, on va se dire la vérité, là. On est juste tous les trois, hein?
Ben oui.
Il y a quelque chose d'un peu paresseux dans le fait de se dire que désormais, on va chercher l'amour en bobette à la maison.
Hey,
ou même sur le bol de toilette.
Et oui, je swipe à gauche, swipe à droite sur le bol de toilette.
Ben oui, il y a du monde qui sont à leur pire. Là. Ils ont les culottes baissées, ils sont en train de faire un numéro 2, puis ils swipent. Tu sais, je veux dire, non, mais c'est vrai. Il y a quelque chose d'absolument contraire à l'esprit de la romance, du charme. Il fut un temps où on se mettait beau, on se mettait chic, puis on était disposé à rencontrer. Mm-hmm. Hein, il y a beaucoup de gens qui tombent célibataires et qui se mettent sur des applications de rencontre tout de suite. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir, peut-être pas tout de suite aller dans une rencontre, mais ils vont pouvoir demeurer sur le marché ou essayer de continuer de se faire complimenter, mais ils ne sont pas prêts encore. Ils n'ont pas tourné le dos à leur passé. Alors avant, quand on se faisait laisser, ou quand on laissait quelqu'un, mais que ça faisait quand même de la peine, et qu'il n'y avait pas l'application de rencontre, bien, on faisait le travail sur nous, on faisait le deuil de cette relation-là, on s'améliorait, on cherchait des solutions. Et quand c'était réglé, on était disposé à rencontrer. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui sont blasés. Ils tombent célibataires, ils se mettent tout de suite là-dessus. On les connaît, ces histoires-là. « Ah, oh, elle m'a laissé, puis mon ami l'a vu sur Tinder. » Ça arrive souvent, ça va dans l'autre sens aussi. Mais ça, c'est toxique au bout, là. T'es pas prêt à rencontrer quelqu'un, tu vas quand même en date, c'est décevant, tu deviens blasé. Puis après, tu t'en retournes, tu restes chez vous le vendredi soir au lieu de sortir avec tes amis. C'est le monde à l'envers.
J'aime tellement ce que t'amènes. Prendre le temps de se déposer à la suite d'une relation. Comprendre pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent que la prochaine relation? Prendre le temps, là, je vais le dire comme ça, d'avaler la pilule. Puis après ça, quand t'es disposé, te remettre sur le marché. Parce que c'est en plein ça. Tu sais, quand tu venais d'être laissé à l'époque... T'allais te saouler 3-4 soirs au bar avec tes chums de gars sans même penser croiser une fille. Puis là, un coup que t'étais remis sur pied, là, t'allais prendre ton courage à deux mains pour jaser à une.
Puis j'ajouterais même, Jean-François, que t'allais, mettons, au bar, deux jours après t'être fait laisser, tu te saoulais la gueule, tu tentais ton coup, tu te faisais dire par la fille en pleine face, hey, toi, t'es pas prêt à retomber sur le marché. Puis le lendemain, tu te réveillais avec un bon mal de tête, mais t'avais au moins les deux yeux dans un trou. Parce que tu savais où t'en étais. Alors que maintenant, il y a du monde qui se met directement sur les applications de rencontre, puis la dure réalité, celle à laquelle ils vont devoir faire face, ils la repoussent un peu plus tard, ils perdent du temps. C'est précieux le temps.
En plein, ça, c'est précieux le temps, t'as raison. C'est précieux aussi de vivre nos sentiments, puis de faire en sorte que ça va nous faire grandir en tant que personne. Les applications de rencontre, immédiatement après une rupture, ben qu'est-ce que ça crée? Ça crée un faux monde, tout simplement. Ça crée un monde que tu penses que tu es encore hot, mais tu ne l'es pas en tout.
Une illusion.
Ah, j'aime ça, une illusion. Mathias, on dit aux gens pour la Saint-Valentin, prenez votre courage à deux mains.
Sortez, allez voir du monde. Allez voir du monde, allez jaser au monde.
Ouais.
Le pire qui peut arriver, là, c'est que vous ayez des bonnes histoires à raconter.
Rémi, dans le fond, soyez des êtres humains.
Ben oui, tout à fait. On a le droit, hein, je pense.
Ben oui. J'ai adoré cette chronique-là, Rémi Villemur. Merci beaucoup. Bye. Rémi Villemur, les mardis et jeudis avec nous à l'émission On en jase aux alentours de 13h10. Excellente chronique qui a mélangé amour, humanisme et également belle façon là, de procéder lors de relations. Hey, on a plein de gens de One Night, hein? J'ai rencontré ma conjointe sur Lava Life, je ne connaissais pas, en 2006. On s'est vus en personne la même journée, ça fait 20 ans que nous sommes mariés depuis 19 ans. Moi, one night, 10 ans plus tard, 2 enfants. Hey, ma copine via une amie en commun pour un one night et 19 ans plus tard, 3 ados. C'était cœur. J'adore ça. Prenez votre courage à deux mains, sinon ça finit à une main. Ouais.
Très bonne celle-là.
OK, ouais, très bonne.
Très bonne celle-là. Je la trouve très bonne.
Après, dans un instant, Boulevard 102, on revient sur cette superbe victoire du Canada sur la Tchéquie, 5-0. Également, des médailles d'argent pour Elliott Grondin et Michael Kingsbury. Les filles ont gagné 5-0. Bref, une superbe journée aux Olympiques 2026 pour le Canada. Exactement 13h36 minutes sur les ondes de Boulevard 109. Vous êtes à l'émission On en jase. C'est quoi ça, l'émission On en jase? C'est ton résumé d'actualité, ton analyse de ce qui se passe dans l'actualité, en politique et dans le sport, à chaque midi, de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 101, avec Jeff Fortin, normalement Pascal CV, mais c'est Mathias Surcotte qui est avec moi depuis le début de la semaine.
Une voix un peu plus grave.
Yes, et qui sera la semaine prochaine. À la météo, les amis, je vous le rappelle, c'est une extraordinaire extraordinaire journée parce que c'est moins 1 degré à l'heure actuelle, c'est ensoleillé. Moins 5 ensoleillé pour demain, moins 5 neige intermittente pour samedi, moins 4 ensoleillé pour dimanche. Les gars, imaginez. Imaginez que les jeux... Non, c'est pas vrai, je reprends pas là-dessus. On s'en va immédiatement
dans ton
rejoindre.
Rêve.
Ouais, c'est ça. On s'en va immédiatement rejoindre Alex Laramé, chroniqueur sportif, journaliste au 99.5 Montréal. On va se faire notre résumé Jeux olympiques comme on fait à chaque jour à l'émission On en jase durant la durée des Jeux. Alex, comment vas-tu?
Ça va en pleine forme, les gars, vous autres?
Ah, ça va super bien. Alex, écoute bien ça, c'était l'enfer tantôt.
Couvert, mais voilà qu'il reprend. Mais la passe est derrière Wilson. Et voilà le tir! Et le but! Oh, un tir qui semblait anodin de la ligne bleue avec à peine 5 secondes 7. C'est 1-0 le Canada.
Macklin Celebrini, le genou de l'équipe, a marqué le premier filet pour le Canada. À partir de ce moment-là, l'équipe canadienne a pris le contrôle du match. C'est une victoire de 5-0. Il n'y a pas de doute, nos boys sont prêts.
Ben oui, on a vu en début de match peut-être un petit peu de nervosité. C'est normal, le tournoi commence. Bennington a fait quelques gros arrêts, mais comme tu l'as dit, à partir du moment que Celebrini a marqué son but, je pense qu'on a vu vraiment toute la domination canadienne. Pour dire que la Tchéquie, historiquement, ça a quand même été un bon pays, mais ils ont beaucoup d'effectifs qui ne sont pas dans la Ligue nationale. Hein. Ils ont deux trios de joueurs de la Ligue nationale, mm-hmm. une paire défensive. Ils ont Dostal devant le filet qui reste un bon gardien dans la Ligue aussi, mais beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. Donc, on a vu quand même une différence de calibre. C'était assez frappant, là, surtout quand tu envoies sur une ligne McDavid, Celebrini, après ça, tu envoies McKinnon, après ça, tu envoies tous les autres. Je veux dire, à un moment donné, c'est un petit peu trop pour eux, puis c'est ça qu'on a vu dans ce match-là. La crème a remonté sur le dessus, puis le Canada a facilement défait la Tchéquie 5-0.
Puis moi, je tiens à dire, ces gars-là sont prêts, ces gars-là sont rapides, ces gars-là sont bons. Puis pour nous autres, ça fait du bien en maudit de voir ces gars-là dans l'équipe Canada aux Olympiques. J'en parlais à Jeff tantôt. C'est 2014 la dernière fois à Sochi. Ça fait 12 ans de ça. On les a-tu attendus, ces Olympiques-là? Puis présentement, je pense qu'on en profite à fond, puis ça vient juste de commencer.
Ben oui, parce que tu sais, dans l'équipe canadienne, c'est tous les meilleurs joueurs de tous les clubs. C'est le fun de voir la Coupe Stanley, mais ça reste que dans toute équipe qui gagne la Coupe Stanley, tu as des joueurs plus ordinaires, si on pourrait dire. Fait que là, de voir les meilleurs contre les meilleurs, c'est un spectacle incroyable qu'on a le droit à cette année.
Exactement. Prochain match du Canada, ça sera 15h10 demain contre la Suisse. Il va se boire de la bière en ce début de vendredi, le week-end. Et dimanche, sortez le Café Bailey, c'est 10h40 contre la France et Alex Texier. Alex, ce serait vraiment décevant qu'on en échappe une. Il faut sortir de notre poule avec 3 victoires et aucun revers.
Ben, selon moi, la logique va être respectée. Là, la Suisse a battu la France 4-0. C'est un bon début de départ, c'est un bon début de tournoi pour eux. Mais encore une fois, la Suisse, beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. Quand nous, sur notre quatrième trio, on a des gars comme Bo Horvat qui joue sur la première ligne avec les Islanders. Je veux dire, selon moi, ça devrait quand même être une victoire facile. Il faut dire que la Suisse, quand même, blanchissage. Donc, défensivement, semble être bien préparé de leur côté. Mais je veux dire, l'attaque du Canada, c'est vraiment trop. Puis s'ils prennent des pénalités, on l'a vu d'ailleurs avec l'avantage numérique. Je veux dire, Crosby, McKinnon, McDavid, Makar, Sam Reinhardt dans Bumper au milieu de la glace. Ça fait mal, ça ne pardonnera pas. Selon moi, ça va être plutôt facile. Puis on ne parlera même pas de la France, là, selon moi. Les gars vont lever le pied après la première période parce que ça va être un massacre contre la France.
Si on continue dans le hockey, au hockey féminin, c'était la reprise du premier match qui avait été annulé en raison des virus dans l'équipe finlandaise. Très belle victoire du Canada, 5-0. Ça va les amener samedi matin, 10h40, en quart de finale contre l'Allemagne et possiblement là, un duel en semi-finale contre la Suède.
Ben oui, puis moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est justement, le Canada a perdu, s'est fait vraiment déclasser contre les États-Unis. Mais là, nous, on fait la même chose avec la Finlande, avec les autres pays. Fait que ça marque vraiment, si on peut, l'échiquier mondial au niveau du hockey féminin. Visiblement, les États-Unis ont une coche sur tous les autres. Ensuite, il y a nous et il y a tous les autres pays. Donc, au moins de pouvoir voir le Canada dominer sans Marie-Philippe Poulin, un pays comme la Finlande, je pense que c'est normal. Puis on espère qu'elle sera de retour pour la ronde des médailles. Selon moi, elle y sera, étant donné qu'on a dit que son tournoi n'était pas terminé, on risque de l'avoir. Mais malgré la belle performance du Canada, je suis convaincu contre les Américaines, ça va être très difficile là, pour aller chercher l'or du côté des Canadiens.
Le King des Boss, Michael Kingsbury, malheureusement, qui vient à court de très peu. Et là, c'est la collègue Audrey Pinchot qui vient de m'envoyer ça. Je vais lui demander qu'elle le mette sur Boulevard 102.1. C'est l'enfant de Michael Kingsbury, bébé Henrik, qui fait une grimace à la médaille d'argent. Fait que même lui, il n'était pas content.
Ben ouais, c'est le fils de l'autre. Il faut dire que Kingsbury a eu exactement le même score que son opposant qui a gagné la médaille d'or. C'est vraiment des questions techniques qui ont fait qu'il n'a pas gagné. Puis on a vu les images. Il était vraiment pas content, Kingsbury. Après, il a lancé ses skis, visiblement déçu. C'est la deuxième fois, c'est les deuxièmes jeux de suite là, qui sort avec l'argent. C'est sûr que pour un gars comme lui, que les records du monde en championnat, le plus de victoires, il veut partir avec l'or. Malheureusement, ce sera l'argent, mais je pense qu'il peut quand même être fier de lui. Ça reste un grand Olympien dans l'histoire des Jeux olympiques d'hiver.
3 médailles d'argent, 1 médaille d'or dans sa carrière. La médaille d'or étant venue à 2014 à Sochi. On écoute la fin de course d'un Québécois de la Beauce, Elliott Grondin.
Dernier virage, est-ce que Elliott va être en mesure de rester premier? Il faut pousser dans ses rouleaux. Alexandre Lamarly qui revient avec beaucoup de vitesse. Est-ce qu'il va dépasser comme Elliott? Deuxième place sur Elliott Grondin.
Qui termine deuxième. Quelle course!
Par 300e de seconde, malheureusement, pour Elliott Grondin. C'est une deuxième médaille d'argent consécutive aux Jeux olympiques pour lui.
Ben oui, deuxième médaille d'argent consécutive. Moi, je regardais la course. Honnêtement, c'était vraiment palpitant. Là.
Ouais, nous autres aussi, on l'a regardé un matin.
Ben oui, je veux dire, le Français était premier au départ. Grondin était deuxième. Finalement, réussi à assister à la première place. Puis c'est vraiment dans les derniers moments, le dernier saut, qu'il s'est fait dépasser, puis finalement perd, comme tu l'as dit, par 300e. C'est là qu'on voit à quel point le calibre est haut, puis ça joue vraiment dans des mini détails. Même lui était un peu déçu après, parce que je pense que avant le premier saut, je pense qu'il se voyait là, gagner la médaille d'or. Là. Moi, j'y croyais aussi. Quand j'ai vu l'autre passer à côté, j'étais là, ah non! Mais tu sais, au final, on est quand même fiers. Là, je veux dire, une médaille d'argent, c'est excellent, mais quand on voit justement l'athlète qui est à ça, là, à peu de choses de gagner la médaille d'or, ça laisse quand même un petit goût amer quand il remporte seulement l'argent. Mais quand même, félicitations à lui, là, quelle performance.
Alex, avant de faire à surveiller pour demain, je veux juste que tu me parles de Yurav Slafovski. J'avais oublié hier de te faire parler de l'attaquant en puissance du Canadien de Montréal parce que tu m'avais dit hors d'onde, hey Jeff, Slaf s'en va pour battre un record olympique.
Ben, il est bien parti. Là. Slaf, il est jeune. Slaf a 21 ans. Pour ceux qui ne savent pas, c'est sa deuxième participation aux Jeux olympiques parce qu'il avait participé lorsqu'il avait 17 ans, lorsque les joueurs de la Ligue nationale n'étaient pas là. Lui, il n'avait pas encore été repêché. Il avait fait 7 buts en 7 matchs. Là, il a fait 2 buts en 1 match. Donc, il est rendu en 9 buts en 8 matchs. Mais il faut dire que le record, là, j'ai fait mes recherches, le record, ça va être difficile à battre. Là. C'est Teemu Selänne qui a le record. On le connaît, le Finlandais. Ouais. Il a 24 buts en 6 Jeux olympiques. Donc, il y a encore des croûtes à manger, Slaf, mais à 21 ans, puis avec un pays comme la Slovaquie, pourrait jouer encore avec la Slovaquie pendant très longtemps. Donc, ça va être à surveiller, mais quelle performance quand même de Juraj, qui est vraiment le catalyseur de son équipe. T'sais, on parlait avec la Tchéquie qu'il fallait surveiller David Pasternak. Mais je pense que les autres clubs, lorsqu'ils vont affronter la Slovaquie, vont avoir un peu le même discours. Il faut surveiller Juraj Slafkovský parce que c'est vraiment le joueur de ce pays qui quand même a surpris la Finlande.
Puis c'est le fun de voir Slafkovský autant se démarquer là, parce que là, on le voit contre des meilleurs au monde en étant le meilleur de son équipe. Puis on le voit prendre son équipe sur ses épaules contre des joueurs hier comme Rantanen, des excellents joueurs de hockey, traîner son équipe sur son épaule puis être capable de battre les meilleurs des meilleurs.
Ah ouais, non, c'était vraiment impressionnant. Tu sais, la Finlande, je pense que même moi, avant la partie, j'aurais dit la Finlande va réussir à battre la Slovaquie. Ils ont tellement des bons joueurs, mais la Slovaquie, ils sont solides. Puis on sent que c'est une équipe qui se tient, qui s'aime. Slafkovský avec Tatar, qui était le porte-drapeau. Une certaine connexion là aussi. Donc, non, pour vrai, je pense que ça va être un pays à surveiller qui pourrait peut-être faire même des dommages là, au niveau de la ronde des médailles. Donc, ça va être un pays à surveiller définitivement avec Juraj.
En terminant, on surveille quoi demain, Alex, pour les athlètes canadiens?
Ben écoute, avant de parler demain, moi j'ai envie de parler cet après-midi parce qu'il y a beaucoup de patinage de vitesse courte piste.
Oh, ça va être intéressant.
Ben, selon moi, c'est, j'ai pas envie de dire que c'est sûr, là, mais on a des bonnes chances d'aller chercher au moins une autre médaille. Tu sais, chez les femmes, On a Courtney Sarrault, Florence Brunel, Kim Boutin qui vont participer aux 500 mètres. Du côté des gars, on a Félix Roussel et William Dengenou. William Dengenou, vraiment à surveiller, c'est ses premiers Jeux, il y a 24 ans. Mais je regardais dans les classements mondiaux, là, il est vraiment dans les tops. Donc, on espère qu'il va être capable d'aller chercher une médaille. Déjà 2 médailles d'argent aujourd'hui. Donc, si on est capable d'aller en chercher d'autres, bien, ça va nous aider à monter au classement.
Tellement. Alex Laramé, on se reparle demain pour ce résumé Jeux olympiques.
Oh, certainement.
Excellent. On va se parler avant le deuxième match du Canada dans le tournoi olympique masculin, hockey masculin, contre la Suisse. Merci, Alex. Toujours un bonheur de te parler.
Toujours. À demain.
Salut, à demain. Dans un instant, Boulevard 101, on termine l'émission avec quelques manchettes. Je vais également vous parler du très beau concours qu'on a de Destination Beauce. Puis, vous dites que le Père Noël est un ordure. Ce n'est pas un mensonge. Il y a un Père Noël, malheureusement, qui a fait des agressions sexuelles et ça fera partie du retour de Gravel. Dans un instant, à Boulevard 101, à l'émission d'Enjase.